Actu SF, les podcasts.
Et donc, bah voilà, on va découvrir avec nos auteurs. Pour certains aguerris, pour d'autres qui nous rejoignent dans la grande famille des Imaginales, et ben on va essayer de vous parler de cette magie et qui est sans doute un élément qui pour beaucoup d'entre vous les attire vers ce genre particulier qu'est la fantasy. On va commencer avec notre invité étranger, anglo-saxon, Stephen Aryan, qui signe une trilogie qui s'appelle L'Âge des Ténèbres, dont le premier tome, ça tombe bien, s'appelle Mage de Guerre. Stephen Aryan, alors on va évidemment parler de ce qu'est un mage de guerre, mais peut-être pour commencer, on va expliquer qu'il y a, au cours de ce roman en particulier, on suit deux personnages. Le premier s'appelle Vargus, c'est un simple soldat. Et ça, on va le laisser découvrir aux auditeurs et aux spectateurs parce que il ne concerne pas notre sujet. Donc ça, vous le découvrirez au fur et à mesure. Et puis, l'autre qui nous intéresse nettement plus déjà, c'est Balfrus. Qui est Balfrus ?
Balfrus is a battle mage, someone who's trained to fight using magic for war. And he's one of a dying breed of mages. There are not many of them now in the world, so he's a valuable commodity and resource that people call upon in desperate times like war during this this first book.
Balfrus est un mage de guerre. Et donc il est entraîné à se servir de la magie spécifiquement pour la guerre, et en fait il fait partie d'une espèce en voie de disparition, ce qui fait de lui une ressource de valeur à laquelle les gens font appel dans des moments désespérés, et c'est le cas dans Mage de Guerre.
Il faut dire que c'est une magie, on en reparlera évidemment au cours de cette table ronde, mais d'une très grande puissance.
Yes, it's if it was weaponry in the army, it would be like heavy artillery. It's very, very strong. So it can knock many, many people out of the way, and it's very obvious magic. It's not subtle, magic.
Donc oui, si on devait comparer ça aux armes traditionnelles, en fait, ce sera de l'artillerie lourde, carrément. Donc en fait,
on est même dans l'arme de destruction massive.
On est dans l'arme de destruction massive. On peut, ça peut véritablement tuer énormément de gens à la fois.
On est donc dans cette guerre. La particularité, c'est qu'on va suivre essentiellement Balfrus, mais Balfrus n'est pas seul. Il y a en fait dans ce royaume qui se défend. On peut dire un bataillon de mages de guerre, ou le mot est peut-être un peu fort.
Il y a à peu près 10 mages qui se battent ensemble.
Ce qui, évidemment, chacun avec quelques particularités différentes, mais ce qui leur permet aussi de s'associer et l'union faisant la force, de renforcer encore finalement leur pouvoir.
Yes, they can by themselves. They're obviously quite powerful, but if they combine their magic and overlap it, it creates something even more powerful that could repel a whole army. So there has to be an equal opposing force on each army. Otherwise, it would be a very short war.
Oui, donc effectivement, en eux-mêmes, ils sont déjà très puissants, et s'ils combinent leurs pouvoirs, ils deviennent encore plus puissants, ce qui fait que, en fait, quand il y a une guerre, il faut qu'il y ait une équivalence en face, sinon la guerre elle serait affreusement courte, en fait.
On va y revenir sur ces mages de guerre tout au long de cette table ronde, mais on va s'intéresser à un premier roman, celui d'Hélène P. Merrell, qui s'appelle le cycle s'appelle L'automne des magiciens. Le premier tome s'appelle La fugitive, et là on va voir un élément quand même un petit peu différent. Ça va être un peu plus calme que chez Stephen Aryan, avec un personnage. Je vais démarrer de la même manière, qui est Octaviane.
Alors, Octaviane, dans ce cycle, en fait, est une jeune fille qui découvre au début du tome 1 qu'elle possède une forme de magie. Et c'est tout à fait inattendu, puisqu'elle n'était pas censée hériter de cette magie. Et elle va devoir en faire l'apprentissage, ce qui ne se passe pas sans mal. Et petit à petit, donc, elle se demande comment utiliser cette magie, dans quel but, par quelle méthode. Et bon, elle va progresser, vous allez voir, tout au long de la trilogie.
Elle s'appelle Octaviane parce qu'elle est la huitième fille. Jusque-là, tout est logique, tout va bien. Normalement, c'est l'aînée de la fratrie. Et c'est aussi une matrilinéarité, hein. C'est de mère en fille que se transmet cette, voilà, cette magie à l'aînée. Et il se trouve donc qu'on a cette jeune femme, indépendamment du fait qu'elle découvre son pouvoir, qui est quand même une rebelle dans l'âme.
Oui, mais peut-être que le fait d'être Octaviane, d'être la huitième, a fait qu'elle n'était pas préparée au trône, elle n'était pas préparée à exercer le pouvoir, ce qui lui a donné peut-être un point de vue différent sur le trône, sur l'exercice du pouvoir. Et voilà, à la suite de toutes sortes d'événements inattendus, eh bien, elle hérite de cette magie qui n'aurait jamais dû être à elle. Et donc, bien sûr, ça déclenche un conflit, car c'est un peu une usurpatrice aux yeux de sa sœur, la reine, qui estime que une telle responsabilité et un tel pouvoir n'auraient jamais dû échoir à cette misérable petite gamine capricieuse et rebelle.
D'où la nécessité de fuir. Et on va voir, contrairement finalement à ce qu'on vient de voir avec Stéphane Ariane, on va voir une magie qui est utilisée de manière, j'allais dire, plus positive, ou en tout cas plus douce, et en particulier une magie qui soigne, ce qui est quand même très différent de ce qu'on vient de voir à l'instant.
Oui, c'est-à-dire que je voulais montrer qu'à partir du moment où on a un certain pouvoir, il peut, dans ce livre, la magie peut être utilisée par différentes personnes de différentes manières. La reine peut utiliser son pouvoir pour dominer, pour faire taire les opposants, tandis qu'Octaviane, au cours de son apprentissage magique, va apprendre à l'utiliser pour soigner. Et bien sûr, en fonction des cités et où elle se déplace et des personnages qu'elle rencontre, chacun aura une utilisation différente du pouvoir qui finalement reflète un peu sa personnalité ou ses traditions familiales.
On va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la magie d'Octaviane et la manière dont elle l'utilise et la manière dont vous la faites passer au lecteur. On y reviendra, c'est également très intéressant. Et puis, le dernier participant à cette table ronde, c'est Fabien, un peu plus habitué des imaginales, en tout cas. Voilà, exactement. Et puis, alors, avec toi, Fabien, on change carrément d'univers parce qu'on revient dans notre monde, le nôtre, celui qu'on connaît, hein, d'une certaine manière, en tout cas, avec certaines limites. On est en Amérique. En 1935, on est donc en pleine Grande Dépression, dans les États, certains qui font partie des plus touchés, en l'occurrence l'Oklahoma, avec le phénomène qui donne le titre au roman, hein, le Dust Bowl. Alors, si vous voulez savoir exactement ce que c'est, je vous invite à retrouver Fabien dans une autre table ronde où on parlera des mythes américains, où je pense que ça sera un peu plus explicité et détaillé. Nous, on va s'intéresser à la magie parce qu'il se trouve que dans ce contexte historique avéré, hein. Eh bien, dedans se passe une histoire où la magie également intervient à travers le personnage central qui s'appelle Kush. Et même question que tous les autres, hein. Qui est Kush ?
C'est un ado qui a vécu avec son père dans une ferme isolée un peu de tout. Et puis, puis son père va mourir. Et puis il va partir sur la route. Et en partant sur la route, il va partir avec un bagage qui est la magie, en fait, qui est une magie héréditaire et qui est pas une magie qu'on apprend dans les grimoires, en fait. C'est une magie qui est plus une magie élémentaire, donc sur les classiques air, feu, eau, terre, ce genre de choses. Et donc, en fait, les magiciens, je dirais, sont plutôt des vecteurs. Le personnage devient un canal, en fait, de cette énergie qu'il arrive à transformer pour en faire des effets divers et variés, lui étant plutôt lié au feu, contrairement à son père qui est lié à la terre, donc c'est des choses différentes.
Voilà, on les appelle les forgerons, hein, c'est ça ?
Ouais, les forgerons, justement pour garder cette image de forger la magie, de forger cette puissance élémentaire, contrairement aux alchimistes qui sont une secte opposée, on va dire, qui sont issus des forgerons, mais qui ont traduit la magie autrement, en la faisant passer par des machines, en la distillant de manière plus mécanique, industrielle.
Avec une alliance qui est assez rare finalement, parce que souvent on oppose la science et la magie. Or là, les alchimistes, eux, ils ont essayé justement de les rassembler et d'utiliser la magie pour accélérer le progrès. On peut dire ça comme ça.
Ouais, mais en même temps, ils ne considèrent pas exactement, enfin, dans ma tête en tout cas, je ne sais pas pour les lecteurs, mais pour moi, ils ne considèrent pas ça comme de la magie. C'est vraiment une extension d'eux-mêmes, une sorte de comme si on avait des personnes surhumaines ou des hommes parfaits pour arriver à se surpasser et donc à utiliser ça comme une extension, plus que avec le terme magie qui est presque sale pour eux, quoi.
Et il y a énormément de références dans ce roman à la littérature fantastique, à la littérature de fantasy, de science-fiction, et puis également presque à la littérature classique. Hein. Il y a quelques références aux auteurs de cette période également,
oui,
Steinbeck en particulier.
Ouais, c'est-à-dire, voilà, je crois que quand on fait aussi dans l'historique, on ne peut pas se passer de se documenter sur le réel, sur les auteurs de cette époque, et aussi accessoirement sur les artistes de cette époque. Je pense aux photographes Dorothy Lange ou Walker, qui est à peine, je ne sais même pas si je le cite exactement, mais je...
Il y en a plusieurs, mais il y a le photographe de cirque.
Ouais.
Et puis il y a un peintre également dont j'ai oublié le nom.
Son nom m'échappe. C'est juste des touches
Des caméos, vraiment.
Des touches, quelque part, des petites touches de peinture aussi pour planter le décor, pour parler de ce qui se passe au-delà de l'Oklahoma, quoi.
Stéphane Ariane, on a parlé donc de Balfrus, on a présenté ce personnage. Vous nous avez dit également que face à cette unité de mages de guerre, il fallait un adversaire à leur taille d'une certaine manière. Or, il se trouve que c'est justement un des aspects du roman, c'est qu'ils vont se retrouver avec leur petite unité où ils sont une dizaine, ils vont se retrouver justement face à un redoutable adversaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de cet adversaire ?
Yes, the enemy is called the warlock, and he's someone who has an enormous amount of power but very little responsibility, and he's like a child with a box of fireworks. He's just experimenting with many, many dangerous things, and there's nobody to say no, and so he creates all sorts of terrible things because he can, and no one can stop him.
Donc oui, c'est un ennemi qui s'appelle le nécromancien et qui a donc un pouvoir qui est absolument énorme, mais avec, en fait, il a très peu de sens de la responsabilité. Et en fait, c'est un petit peu comme un enfant qui jouerait avec une boîte de pétards, de feux d'artifice, et donc il va créer des choses qui sont très dangereuses, en fait, même terribles, et il n'y a personne pour, en fait, le contrôler et l'arrêter.
Il faut dire que le roi dont il dépend est un roi fou, c'est comme ça qu'on l'appelle, hein, et qu'il est effectivement totalement cinglé.
Yes, absolutely. The warlock has told him lots of lies and led him astray, saying he can do all these wonderful things for him, but he actually doesn't care about the king or anything. He just wants to see what he can do with magic through his experiments. He doesn't think about other people. He's very selfish, so he's very focused on himself.
Oui, absolument. Le nécromancien, en fait, a raconté des mensonges au roi fou et en fait, il en a absolument rien à faire. Tout ce qu'il veut faire, lui, c'est créer des choses incroyables, faire des espèces d'expérimentations. Et en fait, il est extrêmement égoïste. Il pense absolument qu'à lui-même, en fait.
La particularité de la magie dans cet univers, c'est qu'elle a des effets concrets, mais son usage a aussi des conséquences sur les mages. Ils ne sont pas omnipotents d'une certaine manière, ils ont une énergie à gérer et ils ont des conséquences même sur leur propre organisme à surveiller.
Magic in my books is like electricity. You can only handle a certain amount before it affects the body, and then if you keep doing it, it affects the soul, and if you keep doing it, it will kill you, and some mages who push the limits too far will physically explode because of the pressure. Oh, it's like trying to hold in water in a spigot, and it just comes rushing out and bang.
Oui, donc la magie, en fait, pour moi, c'est comme de l'électricité dans mon univers. C'est-à-dire qu'on peut en gérer une certaine partie, et si vous continuez à absorber de la magie et à vous en servir encore et encore, en fait, ça peut vous tuer. Il y en a même certains qui, en fait, explosent. C'est comme si vous essayez de faire. Donc, si vous empêchez en fait de l'eau de sortir d'un geyser, à force, au bout d'un moment, c'est obligatoire, ça va vous péter au nez, en fait.
On verra aussi comment se manifeste concrètement cette magie, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très spectaculaire, de très visuel. Mais on va d'abord parler avec nos autres intervenants. Hélène, on a donc cette jeune femme, adolescente encore même, hein, qui se découvre d'un seul coup ce pouvoir. On aurait toujours tendance à penser que, allez, d'une certaine manière, wow, c'est une chance quand même, magicienne, trop classe. Sauf que là, non.
Non, alors pour elle, c'est pas du tout une chance. Elle voit plutôt ça comme une sorte de malédiction, parce qu'en fait, ça a complètement changé le destin, la vie qu'elle s'imaginait. Mais enfin, je pense que c'est un peu une constante, hein, dans les romans qui évoquent la magie, c'est-à-dire qu'il y a toujours un prix à payer pour la magie. Elle va toujours avec donc des conséquences, des risques pour la santé, pour soi-même ou pour le monde qui l'entoure. Et si on contrôle mal ce pouvoir, il peut, oui, exploser. Bon, c'est aussi ce qui arrive à Octaviane quand elle fait son apprentissage. Elle fait beaucoup d'erreurs et elle se rend compte des dangers qui sont liés à la détention de ce pouvoir.
Surtout qu'elle n'a pas vraiment quelqu'un qui la guide. Elle est presque autodidacte.
Oui, mais comme elle n'était pas destinée à hériter de ce pouvoir, elle n'a jamais eu la formation correspondante. Donc elle va être obligée de se trouver elle-même des modèles, des mentors, hein, c'est un peu le personnage type, qui ne sont pas forcément de très bons pédagogues.
On reparlera d'un personnage dans quelques instants qui colle bien aussi avec le thème générique de ces imaginales, qui est celui des créatures, puisqu'on a un personnage hybride qui intervient, qui lui aussi possède ce pouvoir de la magie. Et on en dira effectivement un mot, parce que c'est un personnage assez fascinant, assez intéressant, dont on attend de savoir ce qu'il va devenir à la fin. Gros suspense pour terminer. Fabien Fernandez. Le Dust Bowl, donc on a ce personnage de couche qui se retrouve sur la route. Il s'est fixé un objectif d'une certaine manière qu'il essaye de réaliser. C'est compliqué. Son chemin n'est pas le plus court. Hein. Il va pas aller en ligne droite. Il va être obligé de faire des tours et des détours. Lui aussi, finalement, il découvre ce pouvoir qui est en lui. Il apprend, pareil, à s'en servir, à le gérer. Et là encore, ça ne va pas sans mal et sans difficulté.
En fait, j'hésite à dévoiler des petits bouts, mais en fait, il a hérité de son père d'un vieux livre familial qui est une sorte de carnet intime qui est trimballé dans sa famille de génération en génération. Et qui est quasiment illisible parce que c'est un bouquin qui doit dater du 15e ou 16e siècle. Et du coup, il lit quelques extraits, il découvre en fait quelles sont les voies quelque part de la nature et comment ça se manifeste. Et il apprend un peu comme ça ce qui pourrait être son pouvoir. Et puis il essaye de le manier comme il peut. Alors, je ne sais pas s'il y a vraiment un coup parce que. J'ai pas l'impression d'avoir mis un coup dans le pouvoir. Sur le coup, je sais plus. C'est difficile de définir ça. Comme il est canal de cette énergie, c'est plus le fait de se mettre en écoute de son environnement, en écoute de la nature pour pouvoir le déclencher. Je sais pas si c'est ça le coup.
Mais en tout cas, ça joue beaucoup aussi avec ses émotions. Parce que quand on parle de contrôle, il y a ça aussi. C'est qu'à un moment, si on perd son sang-froid. On perd aussi le contrôle de ce pouvoir-là.
Oui, alors après, il y a un petit jeu aussi des clichés, c'est-à-dire que son père, qui était lié à la Terre, était quelqu'un de très stable, de très organisé. Et lui, il est lié au feu, et en plus, c'est un ado, donc son corps change.
Ce n'est pas sale.
Voilà, c'est ça. Et du coup, il se laisse aussi emporter par ses émotions, parce qu'il a quand même pas une vie très facile. Il vient de perdre son père, il est tout seul sur la route. Il rencontre des hobos qui sont des travailleurs de l'époque, qui pourraient être assimilés à notre époque à des SDF, mais en même temps, c'est des travailleurs itinérants, mais ils sont considérés de la même façon. Et puis, il n'y a pas de communication, et puis il y a des tempêtes de sable. Enfin, c'est vraiment... il se prend tout dans la tête, et puis il essaie d'aller de l'avant pour atteindre son, voire ses objectifs.
Vous allez voir, en plus, d'autant qu'il va découvrir une conjuration, un complot, dont il va être informé presque par hasard, et là aussi où ça lui posera beaucoup de questionnements. Stéphane Ariane, on a bien compris que dans votre roman Mage de guerre, il y a une lutte assez classique entre ce qu'on va dire le camp du bien, le camp du mal, même si c'est peut-être pas forcément aussi strict que je viens de le définir, il y a peut-être quelques nuances à apporter là-dedans, mais on a donc un pouvoir qui est une espèce d'arme absolue. Est-ce que ça donne un statut particulier à ces mages de guerre? Statut social?
They're valued for what they can do, but people are afraid of them because of the power. If you stab someone with a sword, an ordinary person can understand that because they know how it works, but magic, real magic, if you know, not a magician like we have here, if it actually happened in front of you, would be terrifying. So they're important people, but also very scary for the other characters.
Donc ils ont beaucoup de valeur pour ce qu'ils peuvent faire en fait, mais les gens ont quand même peur d'eux pour la simple et bonne raison que en fait si vous voyez un meurtre qui est dû à une épée, voilà, quelqu'un qui enfonce une épée pour tuer une autre personne, et ben en fait vous pouvez le comprendre en fait, c'est facile à comprendre. Par contre, dès qu'il y a l'utilisation de la magie, voilà, si quelqu'un devant vous se mettait à utiliser de la magie pour tuer une autre personne, et ben forcément ce serait quelque chose d'absolument terrifiant.
Ce sont des personnages qui finalement s'unissent, on l'a dit, pour ce qui est du camp du bien contre un adversaire unique en face. Or, au départ, ils sont aussi tous très différents, pas seulement par leur pouvoir, mais par leurs origines. C'est important aussi justement qu'il y ait cet aspect chez vos mages de guerre qui soit une sorte de variété à la fois, j'allais dire, sur le plan racial, sur le plan du sexe également. Il y a une ou plusieurs femmes dans ce groupe. C'était important pour vous qu'il y ait des équilibres comme ça qui se créent?
Just like Helene was saying with magic, some people can do more subtle magic, and some of it's based upon the personality, like the type of magic that you have in your books. So one character is very, very strong, and he's a blacksmith, so he has an affinity for fire. Not quite in the same way, but similar. So some of it's related to heritage, to if they're taught from a young age, or they just stumble onto magic and inherit it, and suddenly they have to find a way to cope. So it depends upon the country of origin as well.
Donc comme Hélène a dit, en fait, la magie, ça peut être obtenu à travers donc plutôt la personnalité, mais ça peut être aussi un héritage. Donc en l'occurrence, moi j'ai un personnage qui est très fort et qui est lié d'une certaine manière au feu. Alors pas exactement de la même manière que dans le livre d'Hélène, mais voilà, c'est un personnage qui est très fort, qui est donc lui aussi lié d'une certaine manière au feu. Et donc on peut avoir effectivement la magie qu'on a en héritage. En fait, on tombe dessus en fait, et derrière on doit apprendre à s'en servir, et il y a aussi effectivement des différences aussi liées au pays d'où on vient et qui influencent la magie qu'on va avoir.
On verra dans un instant comment ça se manifeste, parce que c'est encore une fois très impressionnant pour le lecteur que nous sommes de découvrir cette magie. Hélène, là aussi, comment est vue la magie dans cet univers? Parce que on l'a dit, normalement, elle est quasiment concentrée dans les mains d'une seule personne, a priori en tout cas, qui est amenée à régner. Comment apparaît cette magie dans le reste de la société? Est-ce qu'on la considère positivement, ou au contraire, comme vient de le dire Stephen Aryan, est-ce que c'est une source de peur aussi?
Oui, c'est vraiment ambivalent, effectivement. Bon, la trilogie s'appelle L'automne des magiciens parce qu'on est dans une époque où les magiciens se font de plus en plus rares. On a l'impression qu'ils disparaissent. Et alors, certains estiment qu'il faut préserver cette magie à n'importe quel prix. C'est-à-dire que même les magiciens, finalement, qui utilisent leur pouvoir pour faire le mal, on peut peut-être leur pardonner, puisqu'après tout, voilà, ce sont les derniers, donc ils ont un peu de privilège. Dans d'autres cités, puisque donc Octavian voyage, hein, donc elle va découvrir l'usage de la magie dans différentes cités. Dans d'autres cités, on va encadrer la magie avec des règles très strictes. Certains sorts sont autorisés, d'autres sont interdits. On a le droit, un peu comme la médecine, hein, on a le droit de soigner, mais pas de déclencher la peste sur une armée ennemie. Bon.
On n'est donc pas chez Stephen Aryan.
Et oui, voilà, donc on essaye d'encadrer ce pouvoir avec des lois qui sont propres à chaque cité, parce qu'effectivement, on s'en méfie, on en a peur, donc tout n'est pas autorisé.
Parlez-moi d'Adalgis, qui est, on va dire, l'autre personnage principal, même s'il n'arrive pas dans les premiers chapitres du roman, même si c'est une rencontre de passage, ça devient vraiment l'alter ego, d'une certaine manière, d'Octavian. Or, c'est un personnage très particulier.
Alors, c'est un personnage hybride, hein, moitié homme, moitié lion. Ça correspond un petit peu à ce qu'on trouve dans différentes mythologies. J'ai toujours été fascinée par ces hybrides de sphinx, de chimères qu'on peut rencontrer dans différentes mythologies. Et donc, comment est-ce qu'on peut mêler deux êtres vivants? Comment est-ce qu'on peut les associer? Ben, par la magie. Voilà, et donc il a été créé par la magie, cette hybridation, si on veut, a été faite à sa naissance par la magie, et donc ensuite il va devoir concilier toute sa vie son côté humain, son côté animal, donc ils n'ont pas les mêmes instincts, son côté instinctif luttant contre son côté raisonnable. Et du coup, je trouve ça donne un personnage très toujours dans le dilemme, toujours dans le conflit, et qui vit une relation compliquée du coup avec Octavian.
Comment sont vus les hybrides là encore? Parce que ce sont, on l'a dit, des personnages assez particuliers. Ce sont un peu des parias finalement dans ce monde.
Du fait de leur pouvoir, hein, de leur griffe de lion, si vous voulez, de leur éducation guerrière aussi, ils sont employés donc comme des soldats, mais ce ne sont quand même que des demi-hommes, hein, des demi-animaux, et donc ils sont craints, ils sont puissants, mais ils sont aussi méprisés parce qu'on ne les juge pas dignes de côtoyer les autres hommes.
Et avec un statut qui est quasiment celui d'un esclave.
Quasiment, oui, de garde du corps qui doit mourir pour son roi.
Qui ne peut pas vivre sa vie comme il l'entend.
Absolument.
Adalgis, en cela, est une particularité.
Oui,
hein,
oui, lui
une
aussi
anomalie.
Est un fugitif, et donc c'est un peu le premier point commun qu'il se trouve avec Octavian.
Fabien Fernandez, on l'a dit, il y a cette magie qui est dans l'air, même si elle n'est peut-être pas forcément tout à fait au premier plan. Là aussi, il y a une histoire de rencontre avec un personnage qui s'appelle Ruben. Alors, je ne sais pas si on en parle ici, qui finalement est une créature, là encore, un peu née de la magie d'une certaine manière, on peut dire ça comme ça?
Oui, complètement. Ruben, c'est une sorte de golem. Une sorte de golem de chair, c'est-à-dire composé de plusieurs parties d'êtres humains récupérés dont on ne veut pas trop savoir d'où, pour créer une espèce de corps parfait, mais qui ressemble à une créature de Frankenstein, et qui est un prototype des alchimistes, et qui n'est pas abouti. Alors on l'a laissé de côté comme une vieille carcasse, et s'il prend vie, ou véritablement vie, c'est au contact du héros, Kush, Et du coup, quelque part, c'est le mélange de ces deux magies qui lui donne vie. Et donc, voilà, on n'est pas du coup de, comme pour dans ton roman avec un hybride, parce que bah, lui, il est, c'est une pièce unique. Et du coup, il peut pas être considéré comme un genre esclave. Ou...
Puis lui, il a pas qu'à apprendre juste à utiliser la magie, il a tout à apprendre.
Ouais, lui il repart alors presque à zéro. Presque à zéro en même temps. Parce que les parties différentes de son corps lui parlent, entre guillemets. Il a des souvenirs qui lui reviennent par bout. Et suivant les parties de son corps, donc pour donner deux exemples, il a le bras d'un soldat de la guerre de 14-18 et il a une jambe qui est la jambe d'un coureur de fond qui est plutôt amérindien. Et donc ça lui revient petit à petit, il se construit un petit peu physiquement avec ça aussi. Et donc en même temps, du coup, c'est comme la créature de Marie Shelley, c'est un regard sur l'humanité et il découvre l'humanité avec tous ses bons et surtout tous ses mauvais côtés.
Y compris chez Kush d'ailleurs, hein, dont il modère parfois les emportements.
Ouais, oui, parce qu'en fait, comme témoin d'une époque, comme témoin de cette humanité, ben, Kush essaye de l'éduquer pour pas qu'il se fasse avoir par les méchants hommes qui vont rencontrer. Et en même temps, Kush lui dit bah, fais attention, fais pas ça, fais attention, parce qu'eux, ils sont méchants pour ça ou pour ça. Et puis Kush, il est humain comme nous tous, et puis il a ses défauts et il se laisse emporter par son tempérament un peu fougueux, et du coup en effet Ruben le recadre pas mais lui pose la question de pourquoi du coup lui il est comme ça quoi.
Stéphane Ariane, on l'a dit, la magie tient une place très importante dans Mages de guerre, or vous n'avez pas d'image, vous êtes uniquement avec des mots et vous nous parlez de quelque chose. Sauf exception, je me tourne vers la salle, il y a des magiciens dans la salle, non ? Non, il n'y en a pas trop. Sauf exception, globalement, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir au quotidien. Donc, ça veut dire qu'il faut faire passer cette magie vers le lecteur. Quels effets narratifs vous utilisez justement pour faire passer ces impressions et pour finalement qu'on perçoive cette magie ?
Good question.
Il y a beaucoup d'effets spéciaux, on peut dire.
Yes. Because the book is not modern day, it's not set in this year, I can't refer to any modern things, which makes it so I have to think in terms of scale and size, fire, water, things like this that people can see, lightning and use those terms that have always been used to help describe the magic. That's the easiest way to do it. If it was set now, you could talk about special effects, but from films. But
oui, donc moi, mon livre, en fait, il est pas du tout à l'ère moderne, donc je peux pas me référer à des éléments modernes qui pourraient me permettre d'imager la magie. Donc je dois effectivement revoir tout ce qui est termes d'échelle, de taille, et je dois utiliser des termes que, bah, en fait, tout le monde va quand même pouvoir comprendre, mais qui sont en raccord avec l'histoire, donc tout ce qui est la foudre, les éclairs, donc ça, c'est le genre de choses que je peux utiliser pour décrire ma magie.
On est dans le domaine du visuel, vraiment. On utilise les couleurs, on utilise vraiment beaucoup ce registre-là, finalement.
Yes. Whether it's to do with light or sound and physical force is used in my book a lot. So the easiest and simple form of most simple form of magic is physical force. It's a bit like the sort of the Jedi thing of, you know, pushing someone, but that's the most base, simple magic. The more subtle magic, which isn't in the first book but is in later books, is something that's, you can't see it as much. It's not as obvious. It's not fireballs and lightning, but that takes more skill, so not less.
Oui, donc effectivement, que ça soit de la lumière, des sons, c'est comme ça que se manifeste un petit peu la magie. Mais la magie la plus facile, en fait, c'est tout ce qui est plutôt physique. On pourrait parler un petit peu de tout ce qui est Jedi pour tout ce qui est plus subtil, et en fait on la voit pas immédiatement, en fait on la voit dans les livres d'après, elle est loin en fait d'être évidente, et en réalité c'est au final celle qui réclame le plus de compétences pour être utilisée.
Si je vous pose cette question, c'est parce que chez Hélène ça se manifeste de manière vraiment très différente. Alors quand on s'est vu un petit peu tout à l'heure avant, j'ai utilisé deux adjectifs, je vais les reprendre: sensitive et sensuelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux mots-là ?
Oui, absolument. C'est une approche très sensuelle de la magie. Je veux dire, dans la mesure où tous les sens sont utilisés, et notamment le toucher. La magie donne le vertige, les frissons, les tremblements. C'est une expérience qui est de l'ordre de l'intime, du contact, quelque chose vraiment qui rentre sous la peau. Et je vais essayer de le faire ressentir comme... oui, voilà, un frisson qu'on a dans la nuque parfois, hein, quand on est dans le noir, on a l'impression que quelque chose rôde. Voilà.
Mais on peut aller jusqu'à dire qu'il y a des scènes très érotiques finalement dans ce roman.
Oui, oui, ben
autour de la magie justement, hein, et du contact finalement.
Oui, ben, c'est une jeune fille qui fait l'apprentissage du monde, donc elle fait l'apprentissage de sa magie, mais aussi bien sûr, ben, c'est une adolescente, si tu veux. Donc, il y a un apprentissage de l'amour, il y a un apprentissage bien sûr de la sexualité, et comme elle est un peu dans la confusion, donc tout ça se mêle en elle et finalement donne un résultat, une magie qui pour elle est, oui, étroitement liée à son corps et à ses sentiments.
Y compris les odeurs,
y compris les odeurs, tous les sens.
On est moins dans quelque chose effectivement à grand spectacle comme on vient de le dire, on est plus effectivement sur quelque chose que là on ressent presque physiquement à travers ce que vivent les personnages, et en particulier celui d'Octaviane. C'était une volonté d'emblée, ça, justement, d'utiliser cette magie de cette manière-là, et justement de pas forcément tomber, comme le disait Stéphane, dans certains clichés de la boule de feu, de choses ultra classiques vues et revues, mais de voilà d'aller vers quelque chose d'un petit peu différent, et qui, si je puis me permettre, est presque inattendu quand on vous voit publier chez Bragelonne.
Je voulais, oui, vraiment que la magie soit quelque chose de l'ordre de l'intime et aussi quelque chose qu'on ne peut pas faire seul, quelque chose qui permette de créer du lien, donc cette espèce de lien surnaturel qu'elle finit par créer avec d'autres personnages dans le livre. Et donc ça peut être... ça peut être un conflit, ça peut être une complicité, mais ça doit toujours créer un lien entre les personnages. La magie ne peut pas agir toute seule. Voilà.
Et là encore, comme je disais avec Fabien, les émotions jouent un rôle important, c'est-à-dire que l'état d'esprit des personnages influe aussi sur la manière dont ils utilisent la magie et dont ils peuvent éventuellement perdre le contrôle.
Oui, l'émotion est une force qui nourrit la magie. Donc, elle est héréditaire, comme chez toi, hein, tu vois.
Ma magie, elle est élémentaire, elle vient des forces de la nature. Tu parles d'une magie qui est sensitive, sensorielle, sensuelle. Et du coup, la nature même de la magie, là, je sais pas comment on peut dire... est-ce que c'est, elle est juste là, ou est-ce qu'elle a une origine, sa source ?
Oui, alors elle a une source, ben, tu vas aller, qui vient de la Terre. Qu'on va donc, ça fait partie des choses qu'on va découvrir donc au cours du voyage. Tu voulais pas spoiler.
Ah là là, c'est un métier modérateur. Hein. oui, non, mais c'est voilà, c'est effectivement. Je crois que même elle se pose finalement la question de savoir d'où lui vient ce pouvoir d'une certaine manière.
Oui, puisqu'elle n'était pas censée en hériter, voilà. Donc c'est une des questions à laquelle elle cherche une réponse à travers son voyage.
D'autant qu'on termine ce premier tome à un peu un tournant. Il sera important de voir justement comment on va reprendre la suite du cycle pour espérer peut-être imaginer, mais j'imagine qu'il y a encore un long chemin, le destin que sera celui d'Octaviane. Fabien, la magie, elle se manifeste aussi jusque dans le titre, enfin tu vas peut-être me contredire, mais jusque dans le titre des chapitres, en particulier ceux où Kush est le personnage principal, puisque ce sont les arcanes du tarot.
Oui, ce sont des arcanes parce qu'il y a un personnage, un protagoniste qui est une tireuse de cartes, qui est une magie parallèle. On a en fait dans cet univers cette magie élémentaire, naturelle, donc qui est manipulée par les forgerons. On a son dérivé qui est plus scientifique par les alchimistes. Et puis il y a une troisième voie qui s'est dessinée dans l'histoire de personnes qui avaient ce don pareil. Et puis ils sont restés neutres, un pas de côté pour voir ce qui se passait dans ce grand conflit. Et puis à force d'observer, ils sont restés en tant qu'observateurs. Et du coup ils peuvent voir des choses, ils peuvent voir des destinées. Et dans les différents types d'utilisation, il y a en effet ce tirage de cartes. Et alors le truc, c'est que pour les titres de chapitres, ça va de l'interprétation d'une lame de tarot qu'on retrouve dans le chapitre à des fois juste le nom de cette lame qui va faire écho avec une partie du chapitre. C'est pas forcément le chapitre de la mort, il y aura pas forcément une mort, enfin voilà, c'est, il y a un peu quelque part une sorte de jeu avec ça, mais c'est en effet une troisième voie magique qu'il y a dans cet univers là
qui est en plus je sais pas si on peut trop en parler, mais c'est aussi une des références culturelles qu'il y a dans ce roman, qui sont les frics et les troupes de cirque itinérants dont entre autres s'était inspiré le cinéaste Ted Browning pour faire son film mythique justement à cette période. Mais là encore, on a le sentiment que la magie n'est pas forcément toujours la bienvenue.
Non, on a l'héritage des alchimistes. En fait, les alchimistes sont vraiment dans le cliché de contrôle absolu, donc de passage par ce monothéisme, l'éradication des anciennes croyances, l'éradication des rites qui vont avec et donc qui découlent sur les chasses aux sorcières, autant en Europe que là aux États-Unis, du coup, avec cette histoire, ce clin d'œil à Salem. Et du coup, j'oublie la question.
Mais sur justement la manière dont est perçue la magie,
ah oui,
en particulier on va dire dans ceux qui sont pas directement concernés par elle, et y compris dans cette troupe de cirque dans laquelle Kush va atterrir.
Ouais, alors après le truc, c'est que dans ce que j'écris, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est l'humain, c'est l'humanité. Donc du coup il y a un peu cette interrogation qui ressort régulièrement dans mes livres. Là du coup on a les deux personnages qui vont se retrouver dans une caravane de l'étrange, parce qu'il y a quand même une inspiration de la série Carnival, et côtoyer des monstres avec donc ce monstre, cette créature de Frankenstein qui est censée être un monstre, mais que sur place on prend plus pour un idiot que pour un monstre. Et il y a ce jeu de ping-pong de qui est le monstre de qui, et du coup de cette acceptation quelque part de la magie de cet étrange, et donc cette troisième magie qui apparaît par cette tireuse de cartes, qui est autant mis à l'écart que préservé, parce que c'est un dernier soupçon de magie, quoi.
Un personnage de Ruben, moi, il m'a fait penser à des souris et des hommes aussi, de Steinbeck, où on a ce personnage aussi.
J'ai lu du Steinbeck, mais pas celui-ci.
Voilà, comme quoi, voilà. C'est toujours comme ça, vous voyez. De grands costauds un peu benêts, qui justement a besoin aussi d'un guide pour ne pas se perdre et pour ne pas se faire avoir à chaque fois, parce que les autres le considèrent un peu avec mépris, mais voilà, il y a un peu de ça. Enfin voilà, on en reparlera. Tu as des devoirs de vacances à faire.
D'accord, je prendrai mon cahier.
Stéphane Ariane, on a vu qu'on a une magie chez vous qui est extrêmement puissante, qui a des capacités de destruction absolument énormes, mais vos magiciens ne sont pas ceux qui dominent, ils sont assujettis à un pouvoir politique, ils sont aux ordres d'une certaine manière. Comment est-ce que ça joue aussi, parce que le thème de la trahison est un thème important dans votre roman, à travers en particulier le personnage de Balfrus. Enfin, qui n'est pas le traître, hein, Balfrus, qui est le trahi, entendons-nous bien. Oui, et du fait qu'il soit soumis à un pouvoir politique et donc à des attentes qui, malgré leur pouvoir, les dépassent un petit peu.
So yes, he's despite all of his magical power, he's still is subject to the wing of kings and the armies. He doesn't make the decisions. He's the weapon who is pointed at the enemy and told what to do. But yes, there's a lot of betrayal in the book and people questioning if magic is going to go away, like in Henley's book, if it's going to die out, and some people saying, is that a good thing? And some people saying, is that a bad thing? So magic is dangerous, and it causes lots of problems for all the characters, majors and otherwise.
Oui, en dépit de son grand pouvoir magique, en fait, Balfrus est effectivement soumis aux décisions politiques de roi. C'est pas lui qui décide. En fait, il est l'arme qu'on pointe face à l'ennemi jusqu'à ce qu'en fait on lui dise de passer à l'action, qu'on lui dise de quoi faire. Et effectivement, il y a beaucoup de traîtrise dans mon livre. Et il y a aussi beaucoup de questions au sujet effectivement de la magie, un peu comme dans le livre d'Hélène. Est-ce que la magie va disparaître? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Parce que voilà, effectivement, la magie est très dangereuse et ça cause beaucoup de problèmes à la fois aux personnages principaux mais aussi à d'autres plus secondaires.
Hélène, on verra au fur et à mesure de l'avancée de ce premier tome que le contexte évolue beaucoup autour d'Octaviane, mais elle aussi finalement c'est un personnage trahi et presque de la pire des façons par sa sœur. C'est quand même assez terrible, même si bon, on sait que tout est possible, surtout en fantasy. c'est aussi un thème assez classique de fantasy, la trahison, la revanche. C'est aussi quelque chose qui vous intéressait de travailler, justement, et en lien avec cette magie qui lui procure une position très particulière, finalement.
Oui, bon, j'ai un goût très classique pour la mythologie, et c'est vrai que les frères qui se déchirent, Romulus et Rémus, c'est vraiment des histoires avec lesquelles j'ai grandi. Et donc, cette trahison, hein, la grande sœur qui manipule la petite sœur pour asseoir son propre pouvoir, la petite sœur qui s'enfuit, qui se révolte, etc. Ces conflits fratricides, la magie permet de les rendre plus intéressants, hein, parce que ça permet de les pousser à l'extrême, au lieu d'avoir deux sœurs qui se piquent leur poupée et s'arrachent les cheveux. Là, on a, quand elles se mettent à utiliser des armes aussi puissantes, forcément le conflit grandit et ça donne donc des choses beaucoup plus passionnantes à raconter pour nous, en tout cas les auteurs.
Fabien, on est... C'est un one shot, hein, je pense, de ce ball. Ou en tout cas, c'est.
Je pense.
Il est conçu comme tel. En tout cas, quand on le lit. Sauf que l'histoire en elle-même, hein, on comprend bien qu'elle ne s'arrête pas. On est dans un monde qu'on connaît bien, qui est le nôtre. Il y a des clins d'œil au monde contemporain dont on ne parlera pas ici. Il faudra les découvrir, mais qui sont assez transparents, en particulier du côté des méchants. Hein, on reconnaît assez facilement qui se cache derrière. Il y a un nom qui vient naturellement à l'esprit.
Pas fait du tout exprès.
Mais qui est en lien aussi direct avec la période historique et avec les événements qui se sont déroulés à cette période. C'est un roman très écolo, faut le dire, clairement. Et avec une fin, alors on peut pas la raconter, mais en tout cas on sent bien qu'effectivement ce n'est qu'un début, il faut continuer le combat, pour reprendre un slogan qui était d'actualité il y a une cinquantaine d'années.
Ouais, en même temps, toujours grand mouvement, le futur est, dirait Yoda. Mais l'idée, c'est de... En fait, Dust Bowl, c'est une période en soi écologique, pour faire juste une petite parenthèse qu'on prendra peut-être sur une table américaine, qui en fait, les Américains ont produit énormément de ressources alimentaires pour la Première Guerre mondiale. Pour ça, ils ont gagné plein de sous, ils étaient contents. Et pour ça, surtout, ils ont développé... leur agriculture, ils ont abandonné les animaux, ils ont développé les machines, ils ont éradiqué la végétation pour produire plus, plus, plus. Et en fait, il y a eu un problème, c'est que la végétation, elle servait quand même un petit peu à quelque chose, c'est-à-dire par exemple à arrêter la poussière. Et du coup, quand il n'y a pas d'arbres, la poussière n'est pas ralentie, et quand la poussière n'est pas ralentie, elle se transforme en tornade, en tempête de sable, et donc on a des dust bowls. D'où le cadre historique, d'où le thème écologique. Et à partir de là, j'ai préféré raconter une histoire avec en effet des enjeux écologiques qui ne sont pas du tout masqués. Et plutôt que de dire il faut faire ça ou il faut faire ça, c'est juste, en fait, comme n'importe quel sujet historique, il s'est passé ça dans le passé, on en a tiré des conclusions. Est-ce qu'on est obligé de recommencer ?
Et donc là, la parole maintenant est au monde réel et à nous tous dans cette période de 2018. On arrive au terme de cette table ronde autour de la magie. On espère qu'on vous a un peu envoûté dans ce cadre si particulier du Magic Mirror Idolize. En plus, on avait le nom qui allait bien, c'était formidable. On va remercier, déjà, on va vous remercier, vous, d'être venu nous avoir écoutés. On va remercier nos auteurs d'avoir été présents et d'avoir joué le jeu de cet entretien. Et puis, vous pouvez évidemment retrouver Stéphane Ariane et Hélène Merel et Fabien Fernandez sous la bulle du livre. Ou sous la bulle BD aussi pour Fabien.
Plus d'après-midi, je ferai la bulle du livre et éventuellement la fresque si vous ne trouvez pas. Enfin.
Pour les dédicaces, parce qu'on va vous encourager peut-être encore plus que les années précédentes à aller retrouver les auteurs sous la bulle et à acheter leurs livres. Parce que n'oubliez pas que s'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas de livre. S'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'édition. Et s'il n'y a pas d'écrivain, il n'y a pas d'imaginal tout court.
Merci.